Voilà, bonjour à chacun. Donc, aujourd'hui, on célèbre l'ascension de Christ, quoi, ces jours, hein. L'occasion de se replonger un petit peu dans le vécu de cette journée, des journées qui ont suivi. Et pour cela, j'aimerais lire avec vous le passage qui nous relate l'ascension, en fait, dans les Actes des Apôtres. Juste les quelques versets à partir du verset 12. Alors ça commence déjà avant, où ils regardent en fait Jésus, hein, ils sont sur la montagne. Jésus qui leur dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Là, il donne vraiment ce feu vert, en fait, pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, hein. Pas juste à Jérusalem, pas juste voilà, autour de Jérusalem, mais vraiment partout, afin que son nom soit proclamé. Et après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'ils le regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Puis je me suis posé la question, en fait, si c'était homme de Versoix ou de la région genevoise ou du Grand Genève, qu'est-ce qu'il nous dirait aujourd'hui? Quand c'est qu'on s'arrête, en fait? Comme ça. Et puis qu'on ne sait plus trop quoi faire. Ça vous est déjà arrivé? Quand il y a des miracles, quand il y a des choses qui se passent, quand il y a des événements comme ça qui se passent, et puis on est là complètement bouche bée parce qu'on témoigne de cette puissance qu'on vient de chanter, de cette grandeur de Dieu, de tout ça. Et puis, ben voilà, on est là, et puis, et voilà qu'ils leur disent, ces deux hommes, pourquoi vous arrêtez-vous? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et puis, c'est toujours un petit passage qui m'intrigue en fait. Ils sont là sur cette montagne, ils viennent de vivre ça, il y a ces deux anges qui leur ont parlé. Puis ils répondent en fait à ça. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Alors après, il y a toute la liste de qui était là. Et on arrive au verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et c'est un petit peu sur ce thème de ce dernier verset que j'aimerais me focaliser aujourd'hui. Persévérer dans la prière. C'est la première chose qu'ils font en fait. Alors que Jésus part, les anges leur disent « Allez-y les gars, qu'est-ce que vous restez sur cette montagne? Bougez-vous quelque part. » Et la première chose qu'ils font sans, en tout cas d'après le texte, que les anges leur disent « retournez là-bas et puis priez », c'est la première chose qu'ils vont faire. C'est de se retrouver et d'un commun accord persévérer dans la prière. Et c'est un texte qu'on va retrouver, en fait, ce « tous persévérer d'un commun accord dans la prière » au chapitre 2, avec l'Église qui naît. Et cette Église, il nous a dit qu'elle persévérait dans l'enseignement des apôtres, qu'elle persévérait dans la communion fraternelle, qu'elle persévérait dans la fraction du pain et qu'elle persévérait dans les prières. Alors on pourrait s'arrêter sur chacun de ces points. La semaine passée, je prêchais sur la communion fraternelle, persévérer dans la communion fraternelle dans une autre église. Mais voilà, on ne va pas s'arrêter sur ça, on va s'arrêter sur persévérer d'un commun accord dans la prière. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec le truc? Je vais voir si ça marche. Waouh, ça c'est cool. Persévérer dans la prière, c'est un thème qui, je pense, plus que de recevoir une bonne théorie, doit se pratiquer dans le quotidien, que ce soit dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales, dans nos relations familiales ou communautaires. Alors, j'aimerais commencer en fait en nous penchant sur la signification de ces deux mots qui sont utilisés. Il persévérait, et puis ensuite dans la prière. Donc on va s'arrêter sur ces deux mots et commencer avec le mot prière. C'est quand même le thème, hein ? Mais on va voir que le mot de persévérance a aussi un petit truc à nous apprendre là-dedans. Donc, le mot qui est utilisé pour prière, hein, c'est un mot qui s'appelle proseuché, ou proseuché, ou vous le prononcez comme vous avez envie, d'accord ? En neuchâtelois, ça ferait proseuché, okay. Mais voilà, c'est en fait un mot qui est traduit par prière, dans plein d'endroits de la parole, et qui est composé de deux mots, en fait. Il y a le mot « pros » ou « pro » qui signifie « se rapprocher »,« faire face », »,« aller vers »,« en direction de », »,« être en relation étroite avec ». Et ce Dieu qu'on vient de proclamer, qu'on vient de chanter, quand on prie, avant que ce soit notre petit bobo, nos petits besoins, nos petits n'importe quoi, ce n'est pas la priorité, les amis. La priorité, c'est d'entrer en relation, c'est de s'avancer vers, c'est d'entrer en relation, c'est de s'approcher de ce Dieu qu'on vient de chanter, qui est grand, qui est puissant, qui est majestueux, qui nous dépasse complètement, puis en même temps qu'on peut vivre et expérimenter dans nos vies. Et c'est vers ce Dieu qu'on est invité à s'approcher dans la prière. La prière, c'est premièrement, et on reviendra sur ça, une relation avec Dieu. Ce terme qui est utilisé et traduit très très souvent par prière dans le Nouveau Testament désigne en fait cette communion personnelle et collective avec le Dieu vivant. Que ce soit dans l'adoration, on s'approche de lui et on l'adore. Que ce soit dans la confession, on s'approche de lui, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu grand, qui en même temps a un Dieu qui pardonne, qui est bon, qui est amour. On peut s'approcher malgré qu'on a fait faux dans la confession, parce qu'on sait ce qu'il a à nous offrir. Les actions de grâce, on va l'élever. L'intercession va venir pour intercéder, que ce soit pour nous, pour d'autres, pour le monde, etc. Que ce soit dans nos demandes, dans notre abandon à lui. Et j'aime beaucoup, il y a quelqu'un qui a dit, il ne s'agit pas d'une incantation magique, ni d'un simple rituel. C'est un dialogue relationnel fondé sur la foi, offert par l'intermédiaire du Fils et rendu possible par le Saint-Esprit. Pro, qui n'est qu'une toute petite partie, hein, c'est la moitié de ce mot prière. S'approcher de Dieu, celui qu'on vient de proclamer, ce Dieu qui agit, ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui sauve, ce Dieu qui restaure, ce Dieu qui pardonne, et en même temps, ce Dieu qui est tout-puissant, ce Dieu qui est majestueux, etc., etc. On s'approche, et la prière, c'est s'approcher. C'est être en relation étroite avec ce Dieu. Et puis, il y a cette deuxième partie, ou ce deuxième mot, « œiré », qui signifie prier, souhaiter, faire un vœu, exprimer un désir, donner sa vie. Intéressant, hein ? Que ça soit aussi là-dedans, de donner sa vie. Prière fervente, sincère. Persévérer dans la prière, on voit Jésus le faire. Il se levait pour passer la nuit en prière devant Dieu. Il se rendait vers Dieu. Il connectait avec son Dieu. Il nous a dit aussi et affirmé que tout ce qu'on demandera en priant, si nous croyons, nous le recevrons. Une parole, vous avez peut-être de la peine aussi. Hein, moi, j'ai un peu de la peine des fois avec celle-là. En se disant, il a dit du temple, ma maison sera appelée une maison de prière. À Gethsémané, il a parlé aux disciples en leur disant que la vigilance soutient la prière à l'heure de l'épreuve, quand ils s'étaient endormis. Et puis, là, je vous en fais juste quelques petites bribes, comme ça. Concernant le combat spirituel, il enseigna que ce genre de prière, de combat ne peut sortir que la prière, il parlait là d'un esprit impur. Et puis, il y a les débuts, en fait, de ce vécu de la prière, où, dans Actes 2, 42, il nous a dit, comme on l'a vu tout au début, qu'il se consacrait à la prière, qu'il persévérait dans la prière. Dès la Pentecôte, en fait, la prière, et je dirais même dès l'Ascension, parce qu'ils se sont déjà retrouvés avant, la prière a rythmé la vie de l'Église. Que ce soit pour eux, ils se retrouvent dans la chambre haute. C'est un endroit qu'ils connaissaient. Ils sont allés là où ils savaient qu'ils connaissaient. Ensuite, il y a eu des prières pour les apôtres emprisonnés. Il y a eu la prière parce qu'il y avait des nominations de serviteurs de la parole. Il y a eu la prière qui s'est déplacée de la chambre haute au bord des rivières, dans les maisons. Des rassemblements qui devenaient des lieux de prière. Et je trouve assez extraordinaire qu'on vive ça aussi avec l'Église. Alors merci d'ouvrir votre maison. Mais voilà, tout à coup, c'est plus ici en fait. C'est dans les maisons, c'est dans des petits groupes. Voilà. Et il y a quelque chose qui se passe. C'est comme un petit peu ces allumes de Bengale là, qui partent un petit peu dans tous les sens, et qui vont se multiplier en fait. Et puis, il y a le début de la mission. La prière, c'est cette visite d'un ange, les prières de Corneille qui parlent, et puis il y a cette visite de l'ange, et ça ouvre la foi aux païens, etc., etc. Il y a beaucoup, il y a la prière dans la souffrance, dans le combat spirituel, il y a la prière aussi dans les actions de grâce. Il y a Paul qui nous dit « Priez sans cesse, priez sans cesse ». Vous faites comment prier sans cesse? Mais parce qu'on est en relation sans cesse. Et je reviendrai sur ça avec un exemple dans le Cantique des Cantiques, dans un petit moment, sur ce prier sans cesse. Voilà, quelque chose que j'ai à cœur de partager avec vous, ça viendra un peu plus tard. Donc ça, c'est un petit peu tout ce côté de la prière, ce proseuré. Et puis, on est appelé pas seulement à prier, mais à persévérer dans la prière. Et je me suis dit, en fait, ce mot « persévérer », ça veut dire quoi? Alors, le dictionnaire nous dit « continuer de faire ce qu'on a résolu ». C'est un acte de volonté renouvelée. Ça, c'est tous nos dictionnaires. Alors, j'en ai pris plusieurs, il y a le Larousse, etc., etc. « Demeurer ferme et constant dans un sentiment ou dans une résolution. Durer longtemps en dépit de tout. Poursuivre durablement, avec ténacité, ce qu'on a entrepris. Persister dans une action, une résolution, une attitude, malgré les difficultés rencontrées. » Et quand je lisais ce verset, il persévérait dans l'enseignement, dans la communion, dans la fraction, dans les prières, c'est plus qu'un encouragement. Ça veut dire qu'il y a dans tous ces domaines, en fait, un combat. Il y a quelque chose qui sont des obstacles, il y a des choses qui sont là, qui nous mettent à... on doit lutter, quoi. On doit lutter, on doit persévérer là-dedans. On doit être résolu, on fait un acte de résolution, et puis on continue. Le mariage, on a tous résolu dans le mariage quelque chose. C'est d'être marié avec celui qu'on a marié ou celle qu'on a mariée, jusqu'à sa mort. Persévérer dans le mariage, waouh, ça c'est compliqué, persévérer dans la communion matérielle, la communion. D'accord. Et le mot grec pour persévérer, c'est le mot proskartereo. Alors vous verrez que c'est très semblable à tous nos dictionnaires, c'est un mot qui veut dire persévérer, toujours à disposition, assidu, continuer, être attaché, ne pas quitter, être entièrement appliqué. C'est adhérer à quelqu'un, être son adhérent, être dévoué ou constant à une cause, c'est être constamment attentif, donner un soin incessant à quelque chose, c'est de continuer tout le temps, c'est de persévérer et de ne pas faiblir, c'est de se montrer courageux pour quelque chose ou quelqu'un, et c'est d'être empressé constamment. Ça vous parle tout ça ? On est dans une société aujourd'hui où c'est que la persévérance, je crois qu'on a beaucoup de peine à la vivre. Si nous sommes encouragés, exhortés à persévérer, c'est parce qu'il y a des difficultés, des obstacles le long du chemin. J'aimerais faire un petit truc ouvert maintenant pour que vous participiez aussi, au lieu d'être juste assis comme ça, d'accord ? C'est en fait de poser la question si on doit persévérer dans la prière. Qu'est-ce qu'on rencontre comme difficulté qui fait qu'on doit persévérer ? Quels sont les obstacles, les difficultés auxquelles vous pensez ? Et vous osez parler, d'accord ? C'est OK. Ce qui vous vient à l'esprit, vous le dites. On prie, il n'y a pas de résultat. Concentration. Distraction. Manque de foi. La routine, ouais. La fatigue, la paresse. Pardon ? Le manque de routine. Le manque de routine, ouais. Ok. La déception. Ouais. La douleur. Un petit paquet, hein. Je vous en lis quelques-uns encore. Découragement, qui va peut-être avec la déception un peu. Les prières qui semblent rester muettes, pas de réponse. Les prières dont les réponses ne sont pas celles qu'on attend ou qu'on espère. Les pensées qui vadrouillent, les soucis. Les répétitions inutiles, expressions banales, vides de sens. En fait, on ne sait pas trop comment prier, en gros. Désir égoïste, limité. Une motivation qui est tronquée. On est motivé par soi-même. Les habitudes, la lassitude, le rythme de la vie moderne, ses distractions, ses nombreuses sollicitations et informations. Le moi au centre, l'égoïsme, l'orgueil. La culpabilité, la honte, juste pour en rajouter quelques-uns, les habitudes, les rythmes de la vie moderne, mais il y a peut-être encore d'autres, le manque de pardon, les discordes relationnelles, une foi vacillante, l'auto-indulgence. Toutes ces choses qui perturbent en fait la communion, qui perturbent la relation. Si vous voulez aller creuser un tout petit peu, vous pouvez aller dans 1 Pierre 3, verset 7, Jacques 4, verset 3, qui parle un petit peu de ces différents thèmes. Alors, je n'ai pas fait une longue, longue liste. Je pense qu'on pourra aller beaucoup plus loin dans la liste de qu'est-ce qui fait en fait qu'on est encouragé à persévérer dans la prière. Mais c'est toutes des raisons qu'on vient de nommer qui font que nous devons en fait persévérer. Et j'aimerais prendre juste une piste en fait pour persévérer. Donc ça c'était, excusez-moi, la petite slide que j'avais prévue pour les petites questions sur les obstacles. C'est pas mal, hein ? Petit parcours d'obstacles, là. D'accord ? Et puis à quel défi on est confronté, c'est ce qu'on vient de répondre hein, un petit peu à tout ça. Et j'aimerais juste prendre un exemple de persévérer dans la prière. Et j'ai beaucoup apprécié le moment de louange, en fait, parce qu'il était parti déjà depuis le psaume 65, en fait, que Jean nous a lu. Et après la louange, c'est parti dans la relation. Cette relation dans le psaume 65 qui nous est décrite « Heureux celui que tu as choisi, relation, et que tu admets en ta présence. C'est dans sa présence qu'on vient pour prier. On ne fait pas des prières vides. D'accord ? On vient dans la présence. Et il y a ce verset dans Matthieu 22 qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et puis ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il y avait cette petite phrase que j'ai lue récemment dans un livre que je suis en train de lire, qui dit « Celui qui aime prie avec persévérance. » Waouh ! Ça m'a pas mal fait réfléchir. « Celui qui aime prie avec persévérance. » Et ce n'est pas seulement d'aimer Dieu, c'est d'aimer aussi l'autre. Et pour aimer l'autre, mes amis, il faut s'aimer soi-même. Ça, c'est le commandement que Dieu nous donne. C'est de l'aimer lui, d'aimer l'autre, oui, mais de l'aimer comme soi-même. Et si on ne s'aime pas soi-même, si on ne s'accepte pas soi-même, ça va être très compliqué d'aimer l'autre. Et ça va être très compliqué de prier aussi. Et c'est là que je reviens en fait sur le cantique des cantiques. Quand on aime une personne absente, ça c'était le commentaire qui allait avec celui qui aime prier avec persévérance, quand on aime une personne qui est absente, notre cœur veille en attendant son retour. Et dans le cantique des cantiques, il y a au chapitre 5, j'avais dû faire une fois toute une méditation là-dessus, c'était assez cool en tant que gars. J'étais le seul gars, il y avait une trentaine de femmes. Puis on devait méditer pendant une demi-heure sur le Cantique des Cantiques, chapitre 5, versets 2 et 3. Non, le verset 2 par contre, c'est vraiment cool quoi. « Ouvre-moi ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. » Puis, ouais, mais j'en ai retiré pas mal de choses. Mais avant ça, voilà ce qu'il est dit de cette femme, la Sulamite. Donc la Sulamite, c'est simplement celle qui était de Jérusalem. J'étais endormie, mais mon cœur veillait. Pourquoi est-ce qu'il veillait son cœur? Parce qu'elle ne voulait pas louper quand son bien-aimé il allait débarquer. Elle voulait entendre quand il frappait à la porte. Mesdames qui ont eu des enfants, vous savez ce que c'est. Messieurs aussi, un petit peu moins, parce que des fois on dort un petit peu plus profondément. Vous dormez et vous veillez, parce que vous ne voulez pas louper quand il y a le petit cri, quand il y a le petit pleur. Ça c'est la prière. On veille. D'accord ? Et cette Sulamite, en fait, elle était endormie, mais elle avait son cœur qui veillait. Puis tout à coup, elle dit au milieu du truc, « C'est la voix de mon bien-aimé, waouh !» Et quelque part, c'est d'être dans cette relation avec Dieu, on ne le voit pas, il n'est pas là, il va revenir, on a célébré tout à l'heure. Hein. En même temps, on veut rester réveillé dans cette relation, parce qu'on sait qu'il revient. On ne sait pas quand il revient, mais on sait qu'il revient. Et on sait que c'est un Dieu vivant. On sait que c'est un Dieu avec lequel on peut communiquer, qu'on peut louer, qu'on peut adorer, qu'on peut prier, etc. Et celui qui aime ne se laisse pas en fait distraire. Veiller, c'est le propre de l'amour. Et quand le cœur veille, il est aussi en prière. Là, je vous fais juste des petits comme ça à prendre avec vous. Hein, d'accord ? Moi, je médite là-dessus encore, donc voilà, je ne vous fais pas des déclarations, c'est ça les gars, mais voilà, je suis en route, mais c'est un thème qui me parle ces temps, ce cœur qui veille en fait, qui attend ce retour, qui aime ce Dieu que je ne vois pas et qui pourtant est là, avec lequel je peux communiquer et il communique avec moi aussi et avec lequel nous pouvons communiquer en tant que communauté, parce que la prière, ce n'est pas juste un truc personnel. La prière que Jésus nous a enseignée reprend ce point central de la relation. Il nous dit « Priez notre Père ». Notre. Père, relation qui est aux cieux. Pardonne-nous, relation avec soi-même, comme nous pardonnons, relation avec l'autre. Voyez tout ce qui est impliqué dans cette prière, c'est incroyable. Et je crois qu'en étant ancré, enraciné dans la parole, en gardant à l'esprit aussi la parole méditée, intériorisée dans les mille et une circonstances de la vie quotidienne, et en la mettant en pratique, nous pouvons demeurer dans un état de prière permanent. En fait, quand Paul dit « prier constamment », ce n'est pas compliqué, c'est juste d'être dans cette relation. Et puis, on n'est pas tout le temps à parler, mais on veille, il y a quelque chose qui est là, on s'attend. Il y a quelque chose d'un commun accord là-dedans qui est extraordinaire. Et je crois qu'en tant que communauté, c'est aussi une manière de s'encourager, de se motiver, de se soutenir, d'être là les uns pour les autres, de persévérer dans la communion fraternelle. Ça, c'est le sujet d'un autre message, d'accord ? Mais il y a quelque chose là-dedans qui vient, en fait, et qui fait qu'on va être là. La prière, ce n'est pas seulement pour les gens qu'on voit, c'est pour ceux aussi qu'on ne voit pas, mais qu'on veille, parce qu'on sait qu'ils seront avec nous aussi auprès de Dieu quand Jésus revient. Les chrétiens en Corée du Nord, les chrétiens, maintenant, vous allez un petit peu partout, hein, en RDC, vous allez, il y a de nouveau l'Ebola, vous allez dans tous ces endroits-là, d'accord ? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. On fait ça comment ? Est-ce qu'il faut tout le temps pleurer toute la journée ? Non, mais on veille. Et puis, on est engagé, il y a quelque chose là-dedans de persévérer dans la prière. Et en préparant ce message, en fait, j'ai eu la pensée de demander à quelqu'un de la communauté de venir donner un petit témoignage sur la prière. Et puis, la puissance de la prière, et Denise, tu peux venir, s'il te plaît, simplement donner un témoignage de son vécu à elle. Et je me suis dit qu'au lieu qu'on prenne du temps, nous, pour prier, d'avoir une fois un témoignage, ça peut aussi être cool. Alors, on en a déjà eu il n'y a pas très longtemps, hein. J'avais beaucoup apprécié d'ailleurs toute l'équipe accueil, là, ce que vous aviez fait. Et puis, je me suis dit, mais voilà, il y a quelque chose là-dedans, dans le témoignage, qui est très, très puissant aussi pour nous encourager. Et puis voir un petit peu ce qui se passe quand on prie et quand on persévère dans la prière. Donc je te laisse venir vers le micro.
Bonjour. Alors voilà, j'ai un petit témoignage à vous dire sur la persévérance dans la prière. Le 24 novembre passé, je me suis faite opérer du genou gauche pour mettre une prothèse par le docteur Alves à l'hôpital de la Tour. L'opération s'est très bien déroulée, mais après quelques jours, j'avais très mal à mon genou. Alors à ce moment-là, les médecins m'ont administré de la morphine, ce qui a provoqué une allergie, accompagnée d'un très grand mal-être. Et à ce moment-là même, ils ont oublié ou négligé, je ne sais pas, mais de m'administrer les antidépresseurs que je prends depuis des années. Donc certains d'entre vous savent que je suis sujette facilement à des dépressions provoquées entre autres par la perte de mes deux chers maris. Je suis alors tombée par manque de ces antidépresseurs, dans un profond mal-être. J'ai vraiment touché le fond. Et dans cette détresse, J'ai crié au Seigneur, sauve-moi. C'est trop difficile. Ou alors reprends-moi. Et j'ai aussi demandé à mes amis de la communauté de prier pour moi. Qu'il me délivre de cette grande souffrance. Je me sentais vraiment comme dans la vallée de l'ombre de la mort, comme dit le psalmiste dans le psaume 23. Mais après seulement un certain temps, j'ai été admise à la clinique de la Linière en psychiatrie. Alors enfin là, après quelque temps, ils m'ont de nouveau administré mes médicaments sous la supervision de ma psychiatre, Madame Malezevitch. Normalement, il faut beaucoup de temps pour se remettre d'un tel choc. Mais le Seigneur avait déjà commencé son œuvre en moi. Après seulement quelques jours, alors que j'étais au salon dans la Linière, de la Linière, j'ai ressenti en moi comme un grand souffle me procurant la paix. C'était comme un grand frisson. Et ça me faisait naître, enfin, des pensées positives. Et me permettait enfin de voir à nouveau la beauté autour de moi. Ce fut un véritable miracle. Le Saint-Esprit habitait en moi, de nouveau, comme un souffle nouveau. Et chaque jour, j'allais un peu mieux. Je pouvais même encourager ceux qui étaient autour de moi, ceux qui m'entouraient. Et aujourd'hui, mon cœur est rempli de reconnaissance envers tous mes amis qui ont prié avec persévérance pour moi et qui ont cru que rien n'était impossible à notre grand Dieu d'amour. Gloire à Dieu pour tous ces bienfaits.
Voilà, persévérer dans la prière, j'espère que c'est un encouragement. Il y a bien des endroits, que ce soit dans nos vies personnelles, de couple, de famille, d'église, de plein de trucs en fait, où c'est que parfois on est aussi dans ce creux, on est dans cette vallée, on marche puis on ne sait pas trop où ça mène, on ne voit pas trop devant, on a un petit peu, voilà. Et je crois que là-dedans, en fait, cet encouragement, cette invitation aussi de Dieu à nous tous, dans nos propres situations, mais aussi la persévérance dans la prière communautaire, c'est une persévérance qui va nous interpeller, nous inviter à la vulnérabilité, nous inviter à l'authenticité, nous inviter à partager avec les autres. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs Denise aussi, hein. Et là-dedans, je crois qu'il y a une invitation, pas seulement à persévérer là-dedans, Mais pour persévérer, il y a besoin de communiquer. Il y a besoin d'être les uns avec les autres. Il y a besoin d'être dans cette communion fraternelle, dans l'enseignement, dans le partage de la scène. Et tout ça, et pour moi, ça fait partie de cette vie, en fait, à laquelle on a été appelé. C'est là-dedans, dans des choses comme ça, dans des expériences de vie comme celle-ci, qu'en fait, on va découvrir la puissance de Dieu qu'on a chanté avant, qu'on va découvrir vivre sa grandeur, qu'on va vivre ensemble le nouveau qu'il veut nous donner, qu'on va vivre toutes ces choses. Et j'avais pensé, en fait, pour terminer, de faire quelque chose qu'on ne fait peut-être pas très très souvent, je sais qu'on le fait de temps en temps, mais c'est de reprendre en fait cette prière que Jésus nous a enseignée, de se lever et puis de la proclamer ensemble. Alors, si vous avez des versions différentes, vous allez avec votre version, si vous voulez le faire dans une autre langue, il n'y a aucun problème, d'accord ? Mais voilà, de s'unir en fait, de persévérer aussi dans cette prière-là, qu'une prière voilà, de communautaire, tout comme elle est aussi individuelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles.